Une fois par mois, dans l'Union, un récit dans lequel on donne la parole à un Européen ou une Européenne afin qu'il ou elle nous livre un témoignage, une anecdote, qui met en avant ce que peut incarner l'Europe pour lui ou elle dans ce qu'elle peut avoir de bon comme de négatif. Y a-t-il une mémoire collective européenne ? Quels sont les souvenirs liés à l'Union Européenne et quelle expérience les 15-35 ans font-ils de l'Europe en 2022 ? Ayant grandi en France, j'ai appris dans un premier temps dans ma famille, puis à l'école, l'importance de l'Union Européenne, gigantesque projet de paix réparateur des blessures de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine de réformes libérales et sociales. Habitant aujourd'hui à Bruxelles, je me suis, pendant plus de 20 ans, défini comme un Européen convaincu, pur et dur, qui au grand jamais ne pourrait remettre en cause les bienfaits de la Sainte Union. Mais au fil de rencontres avec les gens de ma génération, lors de voyages, de promenades, de pendaisons de crémaillère ou de verres au comptoir de bar, une question revenait sans cesse. À quoi sert réellement l'Europe ? Comment peut-elle aussi mal communiquer de telle manière que ses 447 millions de ressortissants et ressortissantes puissent à ce point ne rien savoir ni comprendre de ses agissements ? Je me suis donc dit que raconter son expérience faite de l'Europe, c'était mettre en avant ce qui fonctionnait, mais aussi pointer du doigt les absurdités d'un territoire que nous partageons tous et toutes. C'est raconter toutes les situations, plus ou moins banales, de la vie quotidienne, dans laquelle nous, génération Y et Z, interagissons avec l'Union Européenne. Chaque mois, la parole est à trois jeunes, afin qu'ils et elles nous témoignent de leur expérience faite de l'Europe, en paroles et en chansons, en nous racontant une anecdote de leur choix.
Je suis Claudia, j'ai 25 ans et je suis portugaise. Mais alors, tu peux comprendre que j'ai un petit peu d'accent. Mais au Portugal, on apprend le français au lycée. Pendant novembre et décembre 2021, je suis partie en Grèce. Je suis allée à Athènes pour faire 2 mois de bénévolat dans un camp de réfugiés au centre-ville qui s'appelle Eleonore's Refugee Camp. Et j'ai travaillé avec des autres volontaires de toute l'Europe et aussi du Royaume-Uni. On parle d'un camp de réfugiés de 3000 personnes qui étaient au centre-ville. C'était incroyable. Sans faire une comparaison avec Bruxelles, c'est la même chose qu'avoir un camp de réfugiés avec 3000 personnes à Saint-Gilles. Pour y arriver, je montais dans la métro, j'avais un abonnement. C'était comme aller au travail, à l'école. Mais en fait, c'était pour aller en camp de réfugiés. Et on apprenait surtout l'anglais et le français avec des personnes du camp, des résidents du camp. Et aussi, on faisait beaucoup d'activités avec des petits sports, arts and crafts. C'était super, vraiment. Pour expliquer aussi les conditions du camp, il y avait des personnes qui pouvaient habiter dans un conteneur, mais avec 8 personnes dedans. Et mais il y avait personne qui n'étaient pas dans un conteneur, ils étaient dans une tente ou une structure de bois. Et une fois, dans une semaine, quelques volontaires ont décidé d'aller à Istanbul pour un week-end prolongé. Et alors, cette semaine, et surtout jeudi, vendredi, moi et des autres volontaires qui ne sont pas allés, on doit organiser toutes les activités pour le programme éducatif et pour des réfugiés. Et c'était moi avec 5 autres filles, maximum. Et tout s'est bien passé, toutes les activités ont bien marché, même si la plupart des volontaires étaient en Istanbul. On a fait notre partie. Et alors, cet week-end, je me suis réveillée super contente pour profiter d'une ville comme Athènes le samedi matin. J'avais des plans pour aller à un musée, me promener, me balader, aller à café. Mais non, je me suis réveillée, j'ai commencé à voir WhatsApp et il y avait des gens qui disaient le camp est brûlé, il y a une partie... Pas tout le camp, mais il y a une partie qui a brûlé, des conteneurs, des structures de bois. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, d'aller à l'hôpital. Alors venez, s'il vous plaît. L'incendie a commencé, tout ça a commencé à brûler de vendredi soir jusqu'à samedi matin. Et c'était tellement difficile de nous organiser, moi et les autres 5 volontaires, pour nous, Européens, c'est super facile d'aller à l'hôpital. Moi, je suis portugaise et ici, à Bruxelles, je peux aller avec ma carte santé européenne et je peux aller à l'hôpital. Mais quand nous sommes arrivés au camp, il y avait des familles avec brûlures de troisième degré, alors super grave, c'était une catastrophe. Mais les familles nous ont dit, on ne veut pas aller à l'hôpital. Parce qu'on veut pas, on a peur de la bureaucratie, on a peur du racisme, on a peur d'aller en hôpital public grec et arrêter et attendre là pour 5 heures, 6 heures toute la nuit. On veut pas, on a peur d'aller à l'hôpital parce qu'on parle pas grec et les grecs parlent pas anglais et on peut pas se communiquer. Et moi, je pensais, mais ça c'est une chose incroyable parce que nous sommes en Europe et cette personne ici, ont brûlure de troisième degré et ne veulent pas aller dans un hôpital public grec parce qu'ils n'ont pas carte santé, ils n'ont pas un numéro de sécurité sociale et c'était une situation compliquée. Nous étions filles en train de parler avec des hommes arabes et avec surtout des gestes. Ils ne parlaient pas anglais et on ne parlait pas arabe. Et il y a une chose ici, c'est une chose de leur culture, que c'est pas une chose de la culture européenne. Alors, pas européenne, mais j'ai dit pour moi-même. Les hommes ont une autre opinion à propos des filles, surtout dans des cultures arabes. Et j'étais là en train d'expliquer que c'était important pour cet homme d'aller avec son fils, son bébé d'un an, brûlé, à l'hôpital. Et il voulait pas. Et après, un autre traducteur arabe est venu, un homme, a dit la même chose que je disais. Et 5 minutes après, l'homme a dit, OK, j'y vais. Et j'ai dit, vraiment, je suis ici pendant 30 minutes en train de te convaincre à aller. Et tu veux pas aller parce que je suis une fille, que tu donnes des ordres. Ils sont allés à la fin, ils sont allés à l'hôpital, mais ouais, les médecins et les infirmières étaient un petit peu racistes, quelques personnes sympas, mais pas tout le monde. Mais à la fin, j'ai continué mon projet de bénévolat. J'aimais bien être là. On a fini, comme je suis été là jusqu'à Noël, on a fini les activités avec une fête Noël pour les enfants, que c'était une chose super. Et à la fin, je suis venue ici à Bruxelles, mais je suis encore dans le groupe WhatsApp pour des bénévolats de ce projet. Il y a quelques semaines, on a reçu un message qui disait que le camp est en train de fermer. Le gouvernement grec veut fermer le camp. Il n'y a pas une justification, mais on pense que c'est la bureaucratie normale. Et tu penses, alors, ça c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon de fermer un camp et donner une nouvelle vie, un nouvel futur, un nouvel espoir à ces 3000 résidents. Mais fermer un camp ne veut pas dire que tout le monde reçoit son demande d'asile. Pour un pays européen. Non, parce que c'est un circuit qui ne finit pas. Si tu n'as pas ton passeport, si tu n'as pas une réponse à ton demande d'asile, tu dois te déplacer vers un autre camp. Tu sors, la situation de ton pays doit être vraiment terrible, un cauchemar, pour que tu, comme père de famille, par exemple, sors de ton pays avec ta famille, avec ta femme, avec tes 4 enfants, et te déplaces pour un autre pays où personne ne parle ta langue, où tu ne parles pas la langue, et t'es mis dans une situation compliquée, c'est une situation en feu, et tu ne parles même pas la langue. Alors, la situation dans ton pays doit être 1000 fois pire d'une situation comme en feu. Et j'espère que tout le monde peut avoir un futur dans cette Europe. Parce que je suis européenne, je défends l'Europe, mais en même temps, j'ai des yeux, je peux voir tout ça qui est autour. I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on. Oh, you're gone.
somehow I can't move on, no, you're gone. So
je m'appelle Lucia, j'ai 28 ans, je suis italienne et j'habite à Paris depuis 7 ans et demi. Alors, je suis arrivée à Paris en septembre 2014 dans le cadre du projet Erasmus. Et c'était un Erasmus de 9 mois et je suis toujours là. Donc, un Erasmus très long. Alors, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pris une semaine dans un auberge de jeunesse et je m'étais dit, je vais chercher un appartement sur place. Mais ça a été plus difficile que prévu et du coup, j'ai contacté une dame que je connaissais. Quand j'étais en Italie, j'ai travaillé l'été dans un bar et la dame, elle venait tout le temps en vacances chaque été et je l'ai connue comme ça. Elle m'a hébergée chez elle pendant 2 semaines. Et elle a demandé à son gardien s'il avait des contacts. Et ça se trouve que la femme du gardien, elle était gardienne dans un immeuble où il y avait des appartements pour les étudiants. Et du coup, j'ai pris contact avec l'association étudiante qui mettait à disposition ces appartements. Et j'étais en colocation avec deux étudiants français. J'avais pas trop de rapport avec eux parce qu'ils étaient très introvertis. Je les fréquentais pas trop. On se voyait de temps en temps à l'appartement, mais chacun faisait sa vie. Du coup, c'était ma première fois où je vivais à l'étranger et précisément en France. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, le système des finances publiques français. Du coup, j'ai dû quitter l'appartement où j'étais en colocation parce qu'à la fin de mon année Erasmus, j'étais plus étudiante française. Un des autres colocs, il a quitté l'appartement aussi. Il y en a un qui est resté. Et moi, je suis restée à Paris. Et après, je pense 6 mois que j'avais quitté l'appartement, ma mère, elle m'appelle pour me dire qu'elle avait reçu un courrier des finances publiques. Et elle m'a demandé ce que c'était parce qu'elle ne comprenait pas ce courrier en français. Du coup, j'ai demandé qu'elle m'envoie une photo. Et c'était la taxe d'habitation de l'appartement où j'étais en colocation, mon premier appartement à Paris. Et je ne savais pas que quand on est dans un appartement en France au 1er janvier, il faut payer la taxe d'habitation. Et donc, je me suis renseignée et en fait, le courrier qu'elle avait reçu, non seulement c'était la taxe d'habitation, mais il avait aussi une amende parce que la taxe d'habitation n'avait pas été payée dans les temps. Et le coloc qui était resté dans l'appartement, il ne nous avait pas averti qu'il avait reçu ça. Donc, c'est ma mère en Italie qui a reçu la taxe d'habitation et j'ai su qu'au 1er janvier, le locataire qui est dans l'appartement au 1er janvier en France, il doit payer la taxe d'habitation. Et donc, j'ai dû aller dans les bureaux des finances publiques et j'ai dû payer sur place la taxe d'habitation et l'amende. C'était quelques centaines d'euros, mais après, il avait l'amende aussi à payer parce qu'elle n'avait pas été payée dans les temps. On devait la payer tous les trois, mais s'il nous avait tenu au courant... au moment où il avait reçu la taxe d'habitation, on n'aurait pas payé l'amende. C'est marrant parce que comme on est dans l'Union européenne, je pense que les pays sont très connectés. Et ma mère, elle utilise une voiture en Italie qui est à mon nom. Comme ma mère prend beaucoup d'amendes en voiture, c'est moi qui reçois les amendes. pour les excès de vitesse ou les... quand elle est mal garée. C'est moi qui les reçois à Paris et dans les courriers que j'ai reçois, il n'y a même pas mon adresse française. Et il y a juste mon nom et prénom sur les courriers que je reçois, sans adresse, mais ils arrivent à savoir où j'habite. Et du coup, moi, je ne peux pas payer ça en France et je l'appelle pour qu'elles aillent dans les bureaux où on paye ça en Italie.
Così come un assolato inverno, così come un piccolo quaderno, dove annotavi i baci che mi davi. Così come un fatto divertente, così come un numero vincente, parole di canzoni che non sai. Così come un viaggio da inventare, così come un gaio girasole, fiore qualche volta utile. Così come un florido giardino, così come l'oro del mattino, le parole di canzoni che non sai. Na 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 na. Oh, 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 na, 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 oh, oh, oh. E così come il primo giorno a scuola, così come una barchetta a vela, peccato che soffrivi il mal di mare. Così come un porto ormai sicuro, così come muore il desiderio, le parole di canzoni che non sai. Na 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 na, oh, oh, oh. Na 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 na, oh, oh, oh. Na na na.
Alors bonjour, je m'appelle Ali Mohamed Tukbad, j'ai 27 ans et je suis actuellement stagiaire Schuman au Parlement européen. Déjà, je viens de Mulhouse, c'est vraiment une petite ville proche de Strasbourg. Bah, comme dit, moi je viens d'une famille qui est plutôt ouvrière, je viens d'une famille qui est une famille de réfugiés. Mon père actuellement, il est électricien, électricien bâtiment. Ma mère est femme de ménage du coup. J'avais fait mes études et ça a toujours été une évidence pour ma famille que je ferais de longues études parce qu'il y avait cette obligation en fait de se dire que fallait absolument que j'obtienne un diplôme et que je devienne indépendante avant de prendre ma vie en main. J'ai fait mes études à Strasbourg, mes études de droit. Ma sœur avait fait ses études de médecine puis de droit à Strasbourg. Du coup, pour moi c'est naturel, c'était la ville la plus proche et c'était une grande ville étudiante. Je pense que j'ai été l'une des seules à avoir déjà fait une fac de droit dans mon entourage. Donc déjà, ça a fait que je me suis retrouvée vraiment toute seule à la fac de droit. Par exemple, si je pars du collège, parce que mon collège, c'est pas un mauvais collège, en soi, c'était pas non plus un collège avec, tu sais, l'espèce de sigle, tel en tel endroit, ZEP, ZUP, ce que tu veux. Mais ça sortait que, bon, c'était plutôt précaire. Au niveau des études supérieures, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de gens qui soient allés faire des études supérieures après, tu vois. Il doit y en avoir certains, mais je pense que ça reste très marginal. Donc rien que ça, c'est un peu déprimant. Donc je suis allée faire du coup mes études à Strasbourg pour devenir avocate à la base. J'ai fait des études de droit, vraiment dans l'idée où je deviendrais avocate ou juge. Donc c'est là que pour la première fois, j'ai un peu entendu parler de ce que c'était que le Parlement européen, de ce que c'était que le Conseil de l'Europe, la différence entre les différentes institutions. J'ai eu l'opportunité de les visiter. Et ça a été un peu une expérience qui m'a un peu ouvert les yeux parce qu'avant ça, c'était pas forcément ni des choses que je connaissais, ni des choses auxquelles je m'intéressais. C'est là, en tout cas, c'est là où j'ai eu ma première, entre guillemets, rencontre avec les institutions européennes. Et en L1, j'ai eu l'idée de devenir avocate en droit administratif. En même temps, j'ai découvert la HAI. Et en fait, la HAI, c'est l'European Young Event. C'est un moment dans l'année où, en fait, on va demander, enfin, l'Union européenne va demander aux jeunes, en fait, de s'exprimer sur tout un tas de sujets. Donc, il y a des workshops, il y a la possibilité de participer en groupe. Et en gros, on va brasser, en fait, tout plein de sujets. Et les jeunes vont pouvoir avoir l'occasion, en fait, de donner leur avis sur la politique, de donner leur avis sur ce qui les intéresse. Et c'est vraiment un moment, en fait, où pour la première fois, les institutions vont être en lien avec les jeunes et vraiment prendre le pouls, entre guillemets, de la population. En fait, c'est un peu une espèce de vague de jeunes gens qui prennent d'assaut les institutions pendant 3 jours, en fait. Et donc, ça se passe à Strasbourg. Et donc, j'ai entendu parler de cet événement. Je me souviens plus trop, je crois que c'était sur Facebook. Il y avait eu une espèce d'annonce. Et je me suis dit, tiens, ce sera bien ça pour mon CV. En plus, voilà. Mais le côté de l'Union européenne, c'était extrêmement secondaire, en fait. Et donc, je me suis inscrite, mais un peu sans vraiment savoir dans quoi je m'engageais. Et tous les mois, en fait, si on était prêt à se donner plus, en fait, à être plus motivé que les autres, on pouvait être bénévole leader. Mais dans ce cas-là, il fallait passer un espèce d'entretien. Donc, j'ai passé l'entretien. Et du coup, j'ai été prise. Et du coup, on m'a donné plein de responsabilités. Comme, par exemple, appeler les autres jeunes d'Europe, voir, en fait, quand ils viendraient, quand ils avaient booké leurs billets. Et donc, pour la première fois, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le bâtiment qui est, du coup, le Parlement européen à Strasbourg. Et ça a été un peu un choc, dans le sens où c'était vraiment, c'est vraiment impressionnant, c'était grand, c'était beau, les gens avaient l'air super importants, et moi du coup, je venais pas d'un milieu social qui était genre super, je crois que le plus beau bâtiment dans lequel j'étais rentrée à cette époque-là, ça devait être le tribunal, pas loin de chez moi, dans lequel j'avais dû aller pour des trucs administratifs. Et je sais pas, genre ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, et surtout ce qui m'a frappée et entre guillemets touchée, mais je sais pas si vraiment on peut dire ça, c'est une forme de démocratie, même si c'était pas le fait de voter, c'était le fait d'écouter. C'est vraiment une opportunité en fait d'écouter, de prendre des notes de ce que disaient les différents jeunes, d'impliquer des jeunes et de voir en fait ce qui en sortait. Et je me suis dit qu'en fait, c'est ça l'Union européenne, c'est ça qu'ils font, c'est sur ça qu'ils travaillent. Et je me suis rendu compte en fait, c'était pas une institution si éloignée de ça de nous en fait. C'est un truc qui avait un impact vraiment concret sur nos vies. C'était pas juste quelque chose de vraiment technocratique, lointain, qui se passe à Bruxelles et qui avait une existence matérielle en fait. C'était pas juste un concept. C'est une multitude de pays avec des cultures qui sont vraiment différentes, avec des langues qui sont vraiment différentes, avec des jeunes qui sont aussi motivés, qui ont aussi envie d'avoir un impact. Et là, vraiment, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'avais participé à un événement démocratique, j'avais pris ma part, et ça fait quelque part plaisir de dire que ce qu'on fait a parfois un impact aussi concret. C'était excitant en fait de se dire ouais ok c'est super important et je fais un truc dans un endroit qui est super important donc ça rajoute un petit côté ouais voilà. J'ai vraiment été étonnée comme si c'était quelque chose en fait qui était en fait je sais pas comment dire mais quand tu découvres quelque chose qui a toujours été là mais t'avais aucune idée de ce que c'était en fait et à la base nous on avait enfin moi en tout cas j'avais pas trop d'idée de ce que c'était que l'Union européenne. En fait c'était quelque chose de très lointain et pas vraiment existant. On était pas mal intéressés dans ma famille par la politique nationale, pour plein de raisons. Notamment en partie parce que le fait que mes parents sont des réfugiés politiques, donc ils sont toujours un peu intéressés à tout ce qui était politique, etc. On regardait souvent le JT, tout ça. Mais l'Union européenne, c'était quelque chose qui avait pas d'existence, en fait, dans ma vie. C'était quelque chose qui... je savais que ça existait, bon, j'étais pas complètement ignarante, mais je savais ni ce que ça faisait, ni à quel point c'était important, le rôle que ça jouait. Enfin, autour de moi, il y avait personne qui votait pour... les élections européennes, par exemple, c'était vraiment quelque chose de très flou. Je pense que le gros problème de l'Union européenne, c'est que c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Et c'est pas quelque chose de facile à appréhender. Je pense pas qu'elle n'affecte pas les gens selon leur classe sociale. Moi, je pense qu'elle affecte tout le monde, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton... Moi, je pense qu'elle affecte tout le monde, mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas conscience qu'elle nous affecte. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'un milieu qui est plus aisé, plus bourgeois, dans lequel, en fait, t'as eu l'opportunité d'avoir... une bonne éducation, t'as eu l'opportunité d'avoir une éducation politique, une éducation culturelle, une éducation même au niveau international, tu sais comment les choses fonctionnent et tu sais qu'est-ce qui est positif pour toi, qu'est-ce qui n'est pas positif pour toi, pour qui voter. Enfin, t'as plus une idée, en fait, des choses, alors que, quand t'es du milieu ouvrier, en fait, c'est juste... C'est des choses qui t'affectent, mais c'est des choses que t'as pas le temps de penser ou que t'as pas spécialement l'opportunité de penser, enfin... C'est pas un truc dont on parle à l'école spécialement. Donc c'est pas tant une question d'affectation de la vie qu'une question de conscience en fait. Je pense que le sentiment européen, anti-européen, il vient quand encore souvent des gens donnent la justification, bah ça c'est l'Europe. C'est vrai que quand tu sais pas ce que c'est que l'Europe et comment ça fonctionne, si on te dit ça c'est la faute de l'Europe, bah oui, tu vas tendre à croire que oui, ça c'est la faute de l'Europe. Mais je pense que le sentiment dans les classes populaires par rapport à l'Union européenne, c'est plus l'indifférence. Et je pense que c'est plus l'indifférence dans le sens où c'est. Ouais, c'est un truc qui existe, ça a un impact, voilà. Bah, en fait, mes parents ont toujours été, même si on n'était pas voilà, ultra riches, ils ont toujours été très intéressés déjà par le milieu de la politique. Et ensuite, mes parents voulaient vraiment que je fasse des études et que je m'accroche et que j'ai au moins un diplôme. En gros, ils étaient vraiment dans l'idée que on ne peut pas s'en sortir sans avoir au moins un diplôme et qu'il fallait vraiment qu'on réussisse. En fait, ils avaient vraiment ce désir de se dire, bon bah, voilà, j'ai été arrachée à ma terre, j'ai plus ça, mais il faut que mes enfants, au moins, ils aient quelque chose et il faut qu'on soit pas arrivé là pour rien, quoi. J'ai pas vécu, c'est le fait d'être arrachée à cette terre natale, mais pour moi, ça fait partie de mon histoire, c'est partie de ma construction et ça fait partie de ma manière aussi de regarder le monde. Et je regarde toujours ça avec un regard un peu à la fois désabusé et en même temps utopiste, dans le sens où je pense qu'on peut faire mieux. En fait, c'est très froid, c'est très déshumanisant. C'est plus, on parle de crise migratoire pour pas parler de, voilà, on parle de migrants. Enfin, il y a une volonté de déshumaniser ces gens pour enlever en fait le moindre type d'empathie que tu pourrais avoir ou de même de solidarité que tu aurais envie d'avoir avec ces gens-là parce que c'est en fait c'est des êtres humains et je sais qu'on peut faire mieux. Je sais que dans un avenir, j'espère pas trop lointain, on va faire mieux et que en tout cas, je pense qu'en tout cas la jeunesse européenne a envie. Ouais, de faire mieux à ce niveau-là.
Vous aurez reconnu Metallica avec Nothing Else Matters pour conclure cet épisode de l'Union, dans lequel nous aurons entendu parler d'incendies au sein d'un camp de réfugiés, de taxes d'habitation françaises ou de European Young Event. Nous aurons également écouté Saudade Saudade de la chanteuse Maro, sélectionnée pour représenter le Portugal à l'Eurovision, ainsi que Simone Loporto avec le titre Il Girasole. Merci à Claudia, Lucia et Ali Mohamed Ugbat pour leur participation. Merci à Adèle Piantavigna pour les drums sur ma voix. À dans un mois.